Bien, ben bonsoir. Vous avez digéré le cours de la semaine dernière? Ah, oh, oui. Alors, nous voilà arrivés au point de Capiton, où nous avons rassemblé les pièces du puzzle. Puzzle qui, une fois assemblé, va nous conduire à cette, je dirais presque trop fameuse équation. Si bien connu et aussi si mal connu. Alors, rassembler les pièces du puzzle, ça veut dire faire une démonstration comment E, M et C se sont retrouvés ensemble. Une démonstration, comme vous allez le voir, vous pourriez, je suis presque sûr, la faire vous-même, tellement elle est triviale. Elle est triviale une fois qu'on connaît la démonstration, bien sûr. Alors, on va y aller tout de suite et je vais utiliser, donc j'ai parlé de puzzle, les pièces du puzzle, je vais utiliser un certain nombre de notions qui sont maintenant solidement acquises. Et je pense que vous rappelez que l'énergie se conserve est un peu inutile. Mais n'empêche, c'est quelque chose que je vais devoir utiliser. La quantité d'énergie ne change jamais, quel que soit le processus. On a aussi vu que l'énergie peut se décomposer en une énergie potentielle qui est liée à une force, à une interaction, et une énergie cinétique qui est liée au mouvement. Pour ce qui est de la masse, on va encore supposer pour un instant que la masse est conservée. Donc, vous rappelez que ces deux principes, conservation de l'énergie et conservation de la masse, étaient les deux principes nécessaires pour valider toute théorie de physique selon Max Planck. La masse, c'est cette quantité qui représente l'inertie, c'est-à-dire la résistance d'un corps à son mouvement, c'est-à-dire la résistance qu'offre le corps pour changer son état de mouvement. Ensuite, on a beaucoup parlé de C. J'espère vous avoir convaincu que C est une constante universelle, une constante qui structure notre représentation actuelle de l'espace-temps. Cette constante a les dimensions d'une vitesse et elle représente en fait la limitation absolue de vitesse qu'aucune particule matérielle ne peut atteindre. Seules les particules de masse nulle peuvent, ne pas peuvent, mais ont la vitesse égale à C et ont toujours cette vitesse, c'est-à-dire les particules de masse nulle ne connaissent pas le repos. Vous ne pouvez pas chevaucher un photon, par exemple. On a vu que pour quantifier C, bah, il suffit de mesurer, enfin, il suffit de mesurer la vitesse de la lumière et la vitesse de la lumière nous donne la valeur de C, de cette constante universelle. Et on a vu lors du dernier cours que C est invariant, c'est-à-dire ne change jamais, C est toujours égal à C, quelle que soit par exemple, la production de la lumière, quel que soit le mouvement de la source de lumière. Et ceci constituait le deuxième principe de la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Le premier principe étant ce qu'il appelait le principe de relativité, c'est-à-dire que chaque fois qu'une loi est vraie en mécanique, elle doit être vraie en électromagnétisme, c'est-à-dire que le principe de relativité est universel. Alors, nous avons laissé la semaine dernière Albert Einstein en juin 1905. Il a toujours 26 ans. Il est toujours employé de troisième ordre du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne. Donc, il s'occupe des brevets, un boulot qui lui plaît pas mal. Et pendant son temps libre, nous avons vu qu'il a rédigé, donc on est en juin, il a déjà rédigé trois articles, chaque article étant d'une valeur de prix Nobel. Premier article, c'est l'article dit du à l'article photoélectrique, où il démontre, en fait, où il dévoile la nature corpusculaire de la lumière. Premier article. Le deuxième, c'est sur le mouvement brownien, où il explique le mouvement brownien en termes d'atomes, explication que mettre en application une année plus tard Jean Perrin pour démontrer définitivement l'existence de l'atome. Troisième article, c'est l'article dont on a parlé la semaine dernière sur la relativité restreinte. En même temps, c'est un terme assez populaire à notre époque, mais lui, c'est vraiment en même temps, il rédige sa thèse, il n'a pas encore sa thèse, hein. Il rédige sa thèse qu'il soutiendra en janvier 1906. Bon, c'est une petite thèse à une vingtaine de pages sur une méthode pour déterminer la taille des molécules. Donc, après cet effort, on peut dire un effort assez intense, c'est quand même pendant son temps libre qu'il a rédigé ses trois articles et sa thèse, Albert Einstein part en vacances, il va en Italie, et puis il revient et il envoie aux Annales de physique, donc toujours le même journal, un nouvel article, un article où il pose en fait dans le titre une question, la question étant, est-ce que l'inertie d'un corps dépend de son contenu en énergie? Point d'interrogation. Les mots, je pense que vous les comprenez, le sens de la phrase, c'est peut-être un peu moins clair. Mais on va voir ce qu'il en est. Alors, c'est un article, il est tout petit. Il fait 2-3 pages. Je vous ai dit, la démonstration est triviale. Est tellement triviale que je vais pouvoir la montrer pas à pas. Et il n'y a aucun problème. Je pense que vous allez suivre sans aucune difficulté. Alors, on va y aller. Alors, il commence par supposer, j'ai une boule de fer. On va dire, allez, bon, il parle pas de boule de pétanque, pour moi c'est plus facile de parler d'une boule de pétanque. Une boule de pétanque qui est chauffée, une boule de pétanque qui chauffe va rayonner du rayonnement, pour se refroidir, donc du rayonnement thermique. Le paramètre, la boule de pétanque a une masse M1 et une énergie E1. Je dis pas quel type d'énergie, c'est une énergie E1. Elle va donc rayonner dans tout l'espace son rayonnement thermique, et là j'ai illustré uniquement un seul rayonnement. Donc il en faut 2 pour conserver la quantité de mouvement. Vous avez donc 2 rayonnements, chacun emportant une énergie qui est epsilon. Comme il y en a 2, je divise par 2 pour avoir l'énergie totale pour ce 2 rayonnements égale à epsilon. Ok? Et comme l'énergie est conservé, c'est-à-dire j'ai autant d'énergie avant le processus qu'après. E1, c'est ce que j'ai avant. Ce que j'ai après, c'est l'énergie epsilon qui est rayonnée, et il me reste une énergie E2, je précise pas ce que c'est, et la masse est M2. Il n'y a aucune raison que ce soit la même, pourquoi pas, hein. Donc il n'y a aucune hypothèse bizarre qui est faite ici, c'est simplement un peu d'arithmétique. Alors, on va reprendre le point de vue du voyageur et du chef de gare. Le voyageur, c'est ce qu'il voit, c'est-à-dire lui, il est assis sur sa boule de pétanque, il voit pas la boule de pétanque bouger, elle est au repos, et il voit ça. Le chef de gare, il va voir la boule de pétanque, en fait, bouger avec une certaine vitesse, qu'on va appeler V, et ce que voit le chef de gare, c'est une énergie E'1, qui n'est pas la même que E1, c'est un point de vue différent. Et le rayonnement va être légèrement différent, donc il y a l'entraînement de la vitesse, ça va être un rayonnement epsilon. Et de nouveau, je conserve mon énergie, donc j'ai E'1 égale E'2 plus epsilon'. Okay ? Rien de magique. Donc on va garder de côté un peu toutes ces choses-là. Ensuite, Einstein pose la question, quelle est l'énergie cinétique de mon objet en mouvement? Alors, l'énergie cinétique, on va la calculer très simplement, c'est l'énergie du corps en mouvement moins l'énergie du corps au repos. facile. Donc, il appelle l'énergie cinétique K, comme kinétique, l'allemand K. Donc, K avant, c'est E'1 moins E1. Et après, bah, c'est E'2 moins E2. Toujours rien de mystérieux. Ensuite, il va se dire, quelle est la quantité d'énergie cinétique que je perds dans le rayonnement ? C'est-à-dire, quelle est l'énergie cinétique avant et quelle est l'énergie cinétique après ? Ça veut dire, vous prenez les deux machins-là, K avant, et vous faites moins K après. Vous recopiez exactement les égalités et tout marche bien. Et maintenant, on va faire un exercice supplémentaire. On va reprendre les deux premières lignes et on va remplacer de façon adéquate les E' pour terminer avec une équation epsilon prime moins epsilon. Donc, vous pouvez faire l'exercice. C'est de l'arithmétique élémentaire. Ensuite, Einstein dit, avant de partir en vacances, j'ai publié un article et j'ai montré quelle était l'énergie vue, l'énergie rayonnée vue du voyageur et vue du chef de gare. Et c'est une équation que j'ai montrée la semaine dernière, en attirant votre attention sur le fait que, essayez de vous en souvenir. Je ne vais pas vous la démontrer, mais elle est très simple à démontrer. En fait, comme j'ai dit, le rayonnement, pourquoi ça bouge pas, hein ? Le rayonnement, ah, voilà, ça bouge. Donc, le rayonnement est émis dans tout l'espace. Donc, il suffit de calculer le rayonnement émis dans une sphère. Donc, ça, c'est de l'électromagnétisme élémentaire. Et ensuite, on peut voir comment ce rayonnement va être distribué dans l'espace quand ma boule de pétanque est en mouvement. C'est-à-dire, quel est le point de vue du chef de gare? Simplement, vous avez l'équation d'une sphère, vous appliquez les transformations de Lorentz et vous tombez sur une relation qui est très simple. Epsilon prime, l'énergie rayonnée vue par le chef de gare, est égale à l'énergie rayonnée vue par le voyageur multipliée par ce qu'on appelle le facteur de Lorentz. Donc, je ne vous ai pas fait la démonstration, mais elle est simple. Donc, maintenant, il y a un exercice de mathématiques tout bête. La boule de pétanque, ça m'étonnerait qu'on arrive à la lancer à la vitesse de la lumière. Donc, on va supposer que la vitesse V est très petite par rapport à C. Donc, V sur C est très petit par rapport à 1. Dans ces conditions-là, il y a une expression mathématique qui s'appelle le développement binominal qui permet, en première approximation, de décrire la relation du haut par la relation du bas. Ça, il faut l'admettre, c'est comme ça. Les termes avec les petits points qui suivent, c'est V4 sur C4, c'est-à-dire un terme encore plus petit que 1, donc on peut négliger. OK? Donc maintenant, on a beaucoup de choses en main. Et on va réécrire epsilon prime moins epsilon, connaissant la dernière équation. Et là, vous avez, en supposant, pardon, j'ai oublié de dire, que les différences d'énergie cinétique, l'énergie cinétique, on va dire, la vitesse étant très petite, on peut prendre l'expression classique de l'énergie cinétique. Souvenez même, c'était la force vive de Leibniz à un demi près. Donc l'énergie cinétique, c'est un demi fois la masse fois la vitesse au carré. Donc vous avez le K avant, c'est M1, le K après, c'est M2, égale epsilon prime moins epsilon. Vous faites un peu d'exercice et vous trouvez un demi V2 sur C2 fois epsilon. Et là, vous voyez tout de suite qu'on peut simplifier. On a partout un demi V carré, un demi V carré, un demi V carré. On simplifie et on trouve M1 moins M2 égale epsilon sur C carré. OK, tout le monde l'a suivi? J'efface et vous pouvez recommencer? Ouais, c'est facile. Donc, on a un premier résultat qui devrait vous faire sauter de 50 cm. Parce que ce que vous lisez ici, c'est lorsque un corps émet une quantité d'énergie epsilon, ce corps change de la masse M1 moins M2. Donc le corps perd de la masse. Donc quid de la masse est conservée, c'est déjà foutu là. La masse n'est déjà plus conservée. Et donc ce que nous dit cette expression, donc il faut bien lire les équations, elle nous dit lorsqu'un corps émet une quantité d'énergie epsilon, il perd une quantité de masse qui est égale à cette epsilon divisé par C au carré. Okay ? Très important de bien lire les équations. Alors, cette équation, disons, cette démonstration, c'est pas encore la fin, mais cette démonstration, jusqu'à présent, Einstein l'a fait avec un rayonnement électromagnétique et une boule de pétanque. Mais vous pouvez remplacer, bien sûr, la boule de pétanque par n'importe quel corps, et le rayonnement n'est pas nécessairement un rayonnement électromagnétique. Ça peut être n'importe quelle énergie émise. Ça peut être, par exemple, des particules d'une désintégration radioactive qui sont émises, et l'énergie en question, cette fois-ci, sera l'énergie cinétique des particules émises. Le raisonnement est à peine plus compliqué, mais il tient toujours. D'accord? Et d'ailleurs, Einstein, qui, bien sûr, connaît sa physique, il est au courant que, à Paris, Becquerel et les Curie ont mis en évidence la radioactivité naturelle, et il leur demande tout simplement de vérifier son équation avec les propriétés de la radioactivité telle qu'il observe. Où je rappelle, cette fois-ci, l'énergie émise, c'est l'énergie cinétique des particules émises. Donc c'est pas parce qu'ils émettent une particule qu'ils perdent de la masse, mais parce ces particules ont une énergie cinétique, et c'est pour cela qu'il y a une perte de masse. Donc maintenant, pour aller au bout des choses, on va dire, Einstein se demande quelle est la quantité maximum d'énergie que je peux rayonner. Bon, pour ma boule de pétanque, c'est un peu difficile de s'imaginer, mais la quantité maximum d'énergie que je peux rayonner, c'est lorsque la masse dans l'état final M2 est nulle. En rayonner plus. Si la masse M2 est nulle, E2 est nul. Maintenant, cherchez bien les équations, faites un petit effort. Ici, M2 égale 0, et là-haut, E2 égale 0. Vous assemblez les deux, et que trouvez-vous? Pam, pam, pam. M1 égale E1 sur C2. Donc, ce que nous dit Einstein, que la masse, l'inertie d'un objet, est égal à son énergie, il rajoute son énergie interne pour la distinguer d'une énergie cinétique, divisée par C2. Et Einstein ne dit pas plus. La masse est égale à l'énergie interne divisée par C2. Alors là, c'est déjà une grosse surprise, une masse égale une énergie. Alors, en principe, je suis à la fin de mon cours. Je vous ai démontré pourquoi E égale MC2. Alors, bien sûr, ça appelle à des commentaires. Vous avez vu qu'Einstein a écrit M égale E sur C2. Il n'a pas écrit E égale MC2. Alors, écrire E égale MC2, la façon dont on écrit les équations peut aisément guider l'interprétation qu'on en fait. Quand vous lisez E égale MC2, je suis sûr que tous, ou à peu près tous, vous allez lire « Je peux convertir de la masse en énergie, le facteur de conversion, le taux de change, est égal à C carré. » C'est une façon de lire l'équation, c'est pas faux, mais la signification physique, quasiment nulle. Alors pourquoi E égale MC2? Ce qui gêne, en fait, c'est le petit C2. Alors, j'en ai déjà parlé. Il aurait été intéressant de, disons, de remonter le temps et de dire à nos prédécesseurs qui ont défini les systèmes d'unité et de leur dire, attention, avant de définir les systèmes d'unité, autour des années 1905, quelqu'un va décréter l'équivalence entre l'énergie et la masse. Donc, choisissez de façon adéquate vos unités. Première chose, vous allez choisir une unité unique pour l'énergie et la masse, puisque les deux sont égales. C étant d'une dimension vitesse, d'une vitesse, c'est-à-dire d'une longueur, d'une distance sur un temps, quand vous choisirez vos unités de dimension, de longueur, de dimension, ne choisissez, ou vos unités de temps, ne choisissez pas des unités purement entropiques ou géocentriques, choisissez des unités telles que C égale 1. Une constante, ça sert à rien de les traîner dans les équations. Vaut mieux l'avoir à égal à 1, ça simplifie de loin toute l'écriture et tous les calculs. Et du coup, on aurait comme équation E égale M. Et là, les choses deviennent claires. Masse et énergie, c'est kif kif pour Rico, c'est pareil. Ok. Maintenant, c'est clair que E égale MC2, c'est un critère, une interprétation très orientée. Vous savez que Homo industrialis est avide d'énergie. Et bien sûr, n'importe quel homo industrialis va faire le calcul. Il va dire, je prends un corps de 50 kilos, je regarde ce que vaut C2, c'est déjà un grand nombre, C2 c'est encore plus grand, je multiplie 50 kilos par quelque chose de très grand et je trouve une énergie colossale. 5 fois 10 puissance 18 joules, ce qui vous dit peut-être pas grand-chose. Alors on va aller en termes un peu plus explosifs, c'est une gigatonne équivalent TNT. C'est 100 000 fois la première bombe atomique. Et ça y est, j'ai lâché le truc, bombe atomique, chute. Alors c'est là où, quand un journaliste incompétent, scientifiquement, s'empare du sujet, il va faire la une du Time de New York, et il va associer EL et MC2 à Einstein et au feu nucléaire. Totalement catastrophique. E égale MC2 ne vous dira jamais comment fabriquer une bombe. Ne vous dira même pas qu'on peut fabriquer une bombe. Einstein n'était quasiment pas impliqué dans ce programme nucléaire de bombe. Et c'est pas une raison d'appeler Einstein le cosmoclaste. Quand même fort. Et en tout petit, écrit en bas, toute la matière n'est que vent et feu. C'est ce que j'appelle des journalistes incompétents. Évidemment, vendre le New York Times, le Times de New York, en disant que la masse d'un corps est une mesure de son contenu en énergie, c'est pas très vendeur, hein. Mais c'est cela la signification de E de M égale E sur C2. La masse d'un corps est une mesure de son contenu en énergie. Si son énergie change d'une quantité E, sa masse change d'une quantité E divisée par C2. Clair? Donc, j'espère que c'est un des messages essentiels que vous emporterez chez vous. Maintenant, non seulement d'accuser Einstein d'être un cosmoclaste, on lui a aussi cherché des poux dans la tête en disant, bah, c'est pas lui le père de E égale MC2, il y en a bien d'autres qui en ont parlé avant. C'est pas faux. Je vous avais dit l'année dernière que la relativité restreinte est née dans un certain contexte, et ce contexte était préparé pour la relativité restreinte, était préparé pour E égale MC2. Alors, comme en fonction de votre interlocuteur, il va lui dire un tel c'est le père de E égale MC2 ou un autre, je vais être un peu de mauvaise foi et je vais chercher tous les pères putatifs de E égale MC2. Et vous allez être surpris, on va commencer par Newton. Alors Newton, dans son traité d'optique, donc c'est un bouquin qu'il a écrit après les Principia. Alors je vais simplement vous citer les auteurs. Alors Newton écrit, ne peut-il pas se faire une transformation réciproque entre les corps grossiers et la lumière? Le changement des corps en lumière et de la lumière en corps est une chose très conforme au cours de la nature qui semble se plaire aux transformations. Pas mal, hein? On est quand même en 1637. En 1732. Alors, mauvaise foi totale, Voltaire. Alors, vous savez que Voltaire était un fan de Newton. Il a adopté son concept corpusculaire de la lumière. Newton avait déjà un concept corpusculaire de la lumière. Et il adopte la définition de la force vive de Leibniz. La force vive égale à M fois V au carré. Bon, à un demi près, c'était bon. Et Voltaire, il va s'amuser à calculer. Il va dire quelle est la masse de ma particule de lumière pour qu'elle ait les mêmes effets qu'un boulet de canon. Il connaissait la vitesse de la lumière, donc les mesures de Bradley et de, comment il s'appelait, de Bradley, disons, et donc donnait déjà une bonne approximation de la vitesse de la lumière. Et notre ami Voltaire va conclure, alors il faut que je trouve exactement la phrase. Il sera donc vrai que si cet atome, donc l'atome c'est le grain de lumière, n'est que de 200 milliards 560 milliards moins gros qu'une livre, il fera encore le même effet qu'un boulet de canon. En d'autres mots, même si j'ai un tout petit machin, je multiplie ce petit machin avec une messe par C2 et je vais avoir le même effet qu'un boulet de canon qui va bien sûr beaucoup moins vite, même s'il est énormément plus lourd. Mais ça c'était un peu de la mauvaise foi. Un autre, un anglais, Samuel Preston, lui, il est l'auteur d'un livre sur l'éther, qui s'appelle La physique de l'éther. Alors lui, il avait un concept particulier, mais intéressant. Il disait que l'éther est constitué de particules qui ont une masse, et ces particules vont bien sûr à la vitesse de la lumière. Et pour lui, la matière, c'était simplement une concentration d'éther. C'est-à-dire, vous ramassez toutes les particules d'éther, vous faites une boule et vous avez de la matière. Et il va postuler que ces particules d'éther qui se déplacent à la vitesse de la lumière ont une énergie égale à la masse de ces particules fois la vitesse de la lumière au carré. Tout est dit déjà. Et il termine en disant, ainsi, de la matière de masse M, donc qui est une boule d'éther, de la matière de masse M, en se transformant de l'éther, c'est-à-dire en se désintégrant totalement, peut donner à l'éther une énergie égale à MC2. C'est pas tout. Olinto De Preto. Ah oui, c'est un industriel italien qui aimait bien la science et il a publié un petit communiqué dans un journal dont j'ai malheureusement pas trouvé la traduction, un compte-rendu à l'Institut Royal Vénitien des Sciences. Il est intitulé « Hypothèse de l'éther dans la vie de l'univers ». Donc il reprend un peu les idées de Preston dans des particules dans l'éther, etc., etc. Et il trouve aussi que l'énergie, encore de masse M, s'il se désintègre, est égal à E à M fois C2. Et ce qui est intéressant, c'est quand même ce qui conclut. Alors, je vais de nouveau le citer. À quel résultat terrifiant nous a conduit notre raisonnement? Personne ne voudra facilement admettre qu'emmagasiné à l'état latent, énergie interne. Dans un kilogramme de n'importe quelle matière, complètement caché et à toutes nos investigations, se dissimule une telle quantité d'énergie équivalente à celle qui peut être produite par des millions de kilogrammes de charbon. Cette idée sera certainement jugée folle. Pas si fou que ça, hein. Et on continue, on en trouve encore. Lui, c'est un peu un original, Gustave Le Bon, que tout le monde connaît, bien sûr. C'était un médecin, alors quand les médecins se mêlent de physique, je vous dis pas. Bon, non, je plaisante. Alors je vous lis aussi ce qu'il écrit et vous allez voir que c'est très malin. La matière et l'énergie sont deux choses identiques, sous des aspects différents, et qu'une quantité considérable d'énergie prisonnière dans la matière sous forme d'énergie interatomique, gardez ça en tête, énergie interatomique, pourrait être libérée lorsque la matière se dématérialise. Donc ils étaient tous sur la bonne voie, mais bien sûr, personne n'a eu les moyens de démontrer ce qu'ils disaient. Ils avançaient des hypothèses, et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, les hypothèses, c'est ce qui fait avancer la science. Et il faudra attendre notre compatriote Henri Poincaré pour faire une première démonstration de E égale MC2 sans la faire vraiment. En fait, il fait une démonstration et il dit que la lumière, c'est un fluide qui est doué d'inertie. Et lorsqu'un système émet de la lumière, donc le système émet une quantité de mouvement, de l'inertie, le système doit reculer comme un canon recule lorsqu'il tire un boulet de canon. Et il fait le calcul, donc un calcul rigoureux, exact, et il va pas jusqu'au bout. Il manquait juste un petit truc pour trouver à la fin de son raisonnement E égale MC2. Pas de chance. Il y en aura un autre qui essayera, qui lui ira jusqu'au bout. C'est un Allemand, Friedrich Heisenhöhl. Ce que lui va faire, il va dire quel est le changement d'une masse lorsqu'un corps absorbe un rayonnement. Pas émet, absorbe. Mais ça marche dans les deux sens, hein, il n'y a pas de problème. Et il fait le calcul et il trouve E égale 4 tiers de MC2. Ouf. Il s'est trompé dans le calcul. Il a été corrigé par après, mais manque de pause. Donc, il publie ce truc en 1905. Vous avez fait l'erreur. Einstein arrive après. C'est tant pis pour vous. Donc, on revient à cette formulation de Einstein. J'ai rien changé au texte jusqu'à présent. On va essayer un peu de voir ce qu'est cette énergie interne. Alors, l'énergie interne d'un corps, c'est déjà l'énergie de toutes ses parties. Et cette énergie, c'est essentiellement de l'énergie cinétique, des choses qui bougent dans tous les sens, qui tournent, qui vibrent, qui font plein de choses, l'énergie cinétique. Mais l'essentiel de l'énergie, c'est en fait de l'énergie potentielle. Et cette énergie potentielle est emmagasinée dans la liaison des parties entre elles. Donc là, vous imaginez un peu le ressort que je comprime, qui stocke de l'énergie potentielle que je peux libérer en lâchant le ressort. La même chose pour l'énergie de liaison. Les parties d'un corps sont liées par une certaine liaison. Si j'arrive à casser la liaison, paf, je peux récupérer cette énergie. Alors pour être encore un peu plus concret, la matière ordinaire, l'énergie de liaison est fournie par la force électromagnétique. Donc, je vous ai dit que l'énergie potentielle est liée à une interaction. Dans la vie de tous les jours, c'est l'interaction électromagnétique. Donc, si vous voulez brûler du charbon, vous prenez du carbone, vous ajoutez en comburant de l'oxygène et vous obtenez du CO2 plus de l'énergie. Ce que vous avez fait là, vous avez cassé un carbone, vous avez arraché un carbone de sa matrice cristalline. Vous avez cassé la molécule d'oxygène. Vous avez donc récupéré de l'énergie que vous utilisez en partie pour reconstituer du CO2. Mais ça coûte moins cher énergétiquement de tenir uni du CO2 que de tenir uni d'un côté du carbone et de l'oxygène, et du coup, vous récupérez un excès d'énergie que vous transformez ensuite en chaleur. Excès d'énergie, donc ça commence à... Cette énergie, c'est des vibrations, des molécules environnantes, etc. Donc, l'énergie interne d'un corps va dépendre de l'interaction et du processus que vous mettez en jeu. En fait, ça va dépendre du ressort et de la façon dont vous comprimez le ressort. Alors, pour un petit exercice, on peut s'interroger, on peut dire comment peut-on obtenir un kilowattheure avec quelle est la quantité de matière nécessaire en fonction du processus et de l'interaction en jeu. Alors, un kilowattheure, c'est un camion 10 tonnes à 100 km/h. C'est aussi l'énergie d'un bon repas. Okay? Donc, si vous allez au resto, vous bouffez un camion de 10 tonnes à 100 km/h. Alors, j'ai ici un tableau. Les interactions, la quantité de matière nécessaire et le mécanisme. Au milieu, EM, l'électromagnétisme. Donc, pour produire, pour mon 1 kWh, il me faut environ 100 grammes de charbon, de pétrole, de gaz, qui, par combustion, vont me donner l'équivalent 1 kWh en chaleur. Si je vais à l'interaction forte, qui est beaucoup plus forte que l'interaction électromagnétique, j'ai deux possibilités, soit je fais de la fusion, soit je fais de la fission. Pour faire de la fusion, avec la fusion 1 kWh, il me faudra 5 microgrammes d'hydrogène. Si je fais de la fission, il me suffira de 10 mg d'uranium. Donc vous voyez, l'interaction qui stocke l'énergie, et ça dépend vraiment du type d'interaction qui est en jeu dans le processus de conversion d'énergie. Si je prends l'interaction gravitationnelle qui est infiniment plus faible que les deux précédentes, vous voyez que les quantités de matière qu'il me faut pour produire un kilowattheure sont infiniment plus grandes. Il me faut 10 tonnes d'eau que je dois faire chuter de 40 mètres pour obtenir un kilowattheure. Donc, je ne veux pas faire une propagande pour un type d'énergie donnée, simplement donner ce qu'est l'énergie interne dans un corps. Alors, la question a été posée il y a deux ou trois cours pour un photon. E égale mc2, la masse du photon, elle est nulle, donc E égale 0. Mais l'aspect ondulatoire du photon nous dit que l'énergie du photon, c'est H, la constante de Planck, fois nu, qui est la fréquence du rayonnement. Donc d'un côté, j'ai une énergie nulle, et de l'autre côté, l'énergie n'est pas nulle. Alors c'est parce que j'ai triché un peu, je vous ai pas tout dit. Je vous ai dit quand même au début que le photon, masse nulle, ne trouve jamais de repos. Donc dans mon raisonnement, prendre un photon au repos, ça peut pas exister. En fait, l'équation complète, c'est celle-là. Alors, rappelez-vous, une énergie, c'est toujours de l'énergie cinétique plus de l'énergie potentielle. J'ai rajouté ici l'énergie cinétique, PC, et l'énergie potentielle, M0C. M0, c'est la masse telle que je la mesure quand je suis le voyageur. Et P va nous donner la vitesse. C'est l'impulsion. Bon. Alors, regardez, si je prends vitesse égale 0, P égale 0, je retrouve bien E égale MC2, racine carrée 1. Si maintenant je prends M égale 0, alors je vais tomber M0 égale 0, et je mélange un peu les choses, je vais bien tomber sur P égale H nu sur C. Alors ceux qui ont suivi les cours il y a 2 ans, je crois, reconnaissent ici l'équation de De Broglie, qui fait l'union entre l'aspect corpusculaire, P, de la lumière, et l'aspect ondulatoire, nu, de la lumière. Donc, là, jusqu'à présent, on est cohérent, et on va le rester jusqu'au bout, de toute façon. Maintenant, origine de la masse. Donc, on s'était interrogé d'où venait notre masse, puisque, bon, je vais vous refaire un peu l'histoire. Donc, on sait, depuis 1906, que la matière est constituée d'atomes. On a appris que l'atome était essentiellement toute la matière, toute la masse de l'atome était concentrée en son cœur, qui est le noyau. Ça, c'est Rutherford. Dans le noyau, on a appris, donc avec Chadwick entre autres, qu'il y avait des protons et des neutrons. Le proton, bon, ça c'est la mécanique quantique, nous dit qu'elle est constituée d'autres particules encore plus élémentaires qui s'appellent des quarks. Et qu'est-ce qu'on a appris en élaborant un modèle décrivant la dynamique de toutes ces particules, le fameux modèle standard des particules élémentaires, on a appris que ces quarks ont une masse nulle. Donc les particules, de façon innée, ont une masse nulle. La masse ou l'inertie, elle ne la gagne que en interagissant avec le champ de Higgs, quand le champ de Higgs existe. Donc, nous devons, a priori, notre masse à des particules qui, elles-mêmes, n'ont pas de masse. Mais ce que je vous ai raconté aussi, c'est que si je fais le bilan des masses, on sait mesurer la masse acquise des quarks, la somme des quarks, des trois quarks qui constituent le proton, par exemple, ne représente que 1% de la masse totale de mon proton. Alors, d'où vient le reste? Ah, il y a l'interaction. L'interaction forte. Les quarks sont tenus ensemble, comme je l'ai dit avant, par une interaction qui stocke donc de l'énergie. Et Einstein nous dit que la masse, c'est de l'énergie. Donc, le restant de la masse du proton, les 99% de la masse du proton, sont dus à l'interaction qui lie ensemble les quarks dans le proton. Mais c'est pas la fin de l'histoire. Si vous vous rappelez du cours de mécanique quantique, comment se représente-t-on une interaction? L'interaction, je peux utiliser de gros mots, c'est une interaction de jaune, hein. L'interaction est représentée par l'échange de particules. L'interaction électromagnétique est représentée par un échange entre les deux partenaires partenaires chargés qui interagissent par l'échange de photons. Pour les quarks, c'est pareil, sauf que c'est des gluons. Donc, l'essentiel de la masse du proton est dû à l'échange de gluons. Quelle est la masse du gluon? La masse nulle. Donc, de nouveau, la masse du proton et donc, par extension, la masse de toute matière est en fait due à des particules de masse nulle. D'où ma conclusion, conclusion de ce petit discours, c'est que toute matière est immatérielle. Surprenant, hein? Et il n'y a aucun bins de... aucune astuce de cachet, hein, c'est une conclusion logique d'un raisonnement. Alors on se dit, on rigole maintenant, mais je regarde 1902, Poincaré, qui écrit Poincaré. Alors suivez bien. Si donc on venait à démontrer que la masse, l'inertie de la matière, ne lui appartient pas en réalité, que c'est un luxe d'emprunt dont elle se part. Il parle un peu mieux que moi, moi je parle d'énergie-liaison, c'est un luxe d'emprunt. Que cette masse, la constante par excellence, est elle-même susceptible d'altération, la masse ne se conserve pas. On pourrait bien dire que la matière n'existe pas. Effectivement, la matière n'existe pas. Et Poincaré avait bien vu les choses. Vous avez une image d'artiste ici de comment se représente un proton actuellement avec les grosses boules qui sont des quarks, et tout le reste, c'est une façon de représenter l'interaction entre ces quarks. Alors, revenons un peu à cette histoire de conservation de masse. Donc, vous rappelez, une étape intermédiaire, un corps qui émet une énergie epsilon, perd de la masse égale à epsilon sur C2. Est-ce que cette perte de masse a été mise en évidence? Ben oui. C'est aussi une chose que j'ai racontée, je crois, l'année dernière. Joliot, quand il apprend l'existence du positron, il fait des mesures et il voit apparaître dans sa chambre à brouillard des paires électrons-positrons qui viennent de rien, qui viennent d'un photon. Donc, création de masse. Et de même, l'inverse, un positron qui rencontre un électron, les deux s'annihilent, il n'y a plus de masse, et donnent deux photons. Façon un peu plus spectaculaire, on va au CERN, on accélère un proton, quasiment la vitesse de la lumière, un deuxième proton dans l'autre direction à la vitesse de la lumière, c'est les gros traits que vous voyez. Vous avez deux particules, donc deux masses bien connues, et vous produisez une multitude de particules qui ont une masse ensemble des milliers de fois plus grande que la masse des deux protons. Donc voilà, on a bien une démonstration visuelle que de l'énergie est transformée en masse. Alors bien sûr, on ne peut pas parler de E égale MC2 sans pas utiliser des gros mots, fission et fusion. Alors je vais essayer de faire ça de la façon la plus polie possible et sans rentrer dans des polémiques. Et je vais d'abord raconter l'histoire de la fission. Alors nous sommes en 1934. Joliot-Curie et Irène Curie avaient découvert la radioactivité artificielle, c'est-à-dire en bombardant avec des particules alpha qui étaient des sources issues de soit de radium, de polonium, donc les éléments découverts par Madame Curie et Pierre Curie. Et donc ils bombardent des éléments et ils arrivent à produire des nouveaux isotopes qui sont radioactifs, mais ils produisent des nouveaux isotopes qui n'existent pas à l'état naturel, ils arrivent à les produire. Donc trouver quelque chose de nouveau en physique, ça excite tous les physiciens, surtout que Stockholm est peut-être en vue, et surtout aussi on peut donner un nom si on trouve un nouvel élément, on peut donner un nom à cet élément. Et donc tout le monde se lance dans le travail, chacun il va de bombarder différents matériaux avec des alphas, et il y en a beaucoup, bien sûr, qui trouvent de nouveaux isotopes. En Italie, il y a Enrico Fermi, qui a constitué une petite bande de génie. Ils sont pas très nombreux, on les appelle les gamins de la rue Panisperna, qui est la rue à laquelle se trouve encore aujourd'hui l'université à Rome. Fermi décide, il dit, au lieu de prendre des alphas, donc alpha c'est une particule chargée, taper une particule chargée sur un noyau qui est aussi une particule chargée, ben, il y a la répulsion coulombienne, c'est pas facile. Donc il dit, je vais prendre des neutrons. Le neutron venait d'être découvert par Chadwick un an auparavant. Vous voyez un peu que les choses vont relativement vite. Donc il bombarde avec des neutrons tous ceux qu'il trouve. Donc ils font toutes les quincailleries de Rome, et ils trouvent plein de matériaux différents jusqu'au jour où il trouve une feuille, un échantillon d'uranium, et il bombarde cet uranium par des neutrons, et il trouve une radioactivité. Donc la façon de découvrir les nouveaux éléments, c'était de chercher des radioactivités inconnues. Donc il trouve une nouvelle, inconnue, c'est-à-dire c'est toujours des radioactivités bêta en général, mais dont la durée de vie est inconnue. Et donc, ils attribuaient, en fonction de la durée de vie des rayonnements, ils pouvaient attribuer un certain isotope. Donc, ils trouvent une nouvelle radioactivité, ils ne connaissent pas, mais ils savaient exactement ce qu'ils voulaient chercher. Ils prennent de l'uranium, ce qui était le dernier élément, l'élément le plus lourd connu à l'époque, et disent, si j'ajoute un neutron, avec un peu de chance, je fais de l'uranium, je rajoute... Le Z reste la même, je rajoute un neutron, qui peut décroître par radioactivité bêta, se transformer en proton, et je peux ainsi former un élément qui est l'élément au-dessus de l'uranium, c'est-à-dire qui a un proton de plus que l'uranium. Et je pense peut-être sans beaucoup réfléchir, mais un peu enthousiasmé par leur découverte, ils disent, ça y est, on a découvert l'uranium, c'est Z égale 92, on a découvert l'élément Z égale 93. Alors bien sûr, ils essayent de lui donner un nom, donc ils retrouvent des noms assez poétiques. Ils l'appellent... l'espérium ou l'osinium, qui sont des noms poétiques pour l'Italie. Et petite histoire rigolote, le directeur de l'Institut, donc 34, il y avait déjà Mussolini, donc le directeur de l'Institut, qui est un peu lèche-botte, suggère, bon, vous devriez l'appeler le Mussolinium. Et Fermi lui a rétorqué, il dit, étant donné que c'est un élément de très courte durée de vie, je pense que le Duce risquerait d'être vexé. Bien, donc ils ont leur nouvel élément, et ils publient, et ça, la publication tombe sous les mains d'une chimiste allemande, Ida Noddack. Ida Noddack, donc c'était pas la première venue non plus, avec son mari, et les deux avaient découvert un élément, alors, l'élément 75. Ida Noddack était originaire de l'état du Rheinland en Allemagne, et ils l'ont appelé le rhénium, mais ça s'appelle toujours le rhénium. Ida Noddack réfléchit, elle est chimiste. Les chimistes d'habitude réfléchissent différemment des physiciens. Et elle dit, c'est pas possible qu'ils aient pu former un élément transuranien, c'est un élément au-delà de l'uranium. Et elle dit, et en plus, leur dispositif expérimental était biaisé. Biaisé parce que Fermi savait ce qu'il voulait trouver, et donc il voulait masquer toutes les radioactivités qui venaient d'éléments qui l'intéressaient pas. Biaiser une expérience, c'était simplement mettre du papier aluminium autour de leur dispositif expérimental pour absorber le rayonnement qui les intéressait pas. Parallèlement à l'expérience réalisée par Fermi, un ingénieur tchèque avait réalisé la même chose. Il s'appelait Monsieur Odolen Kolbik, lui aussi, même résultat que Fermi. Ce que j'ai pas dit, c'est que ce qui troublait beaucoup Fermi, c'est que lorsque il ralentissait les neutrons, la production de cet élément nouveau, inconnu, était encore plus importante. Et ça, c'est un élément clé de l'histoire. Donc, notre ami tchèque, lui, il l'appelle bien sûr son élément le bohémium. Et il a quand même la présence d'esprit, donc il a eu connaissance de la discussion de Ida Noddack, et il envoie son échantillon irradié à Ida Noddack, qui elle est chimiste, elle va analyser les éléments qui se trouvent dans cet échantillon irradié, et elle y trouve plein de choses inattendues. Alors je vous rappelle, on a de l'uranium pur, ZDK93, et elle trouve de l'argent, du thallium, du vanadium, du tungstène, tous des éléments dont le Z est très éloigné du Z=93 de l'uranium. Et là, Ida Noddack se dit, alors là, je suis presque persuadé de la chose, nous avons, ces fragments ont été créés lors de l'irradiation et ne peuvent pas provenir d'un élément transuranien et doivent forcément provenir de la cassure de l'uranium. Ida Noddack est une femme et une Allemande. En Allemagne, le machisme règne en maître et ses travaux restent tout à fait inaperçus. En France, où nous sommes beaucoup moins machistes, Irène Curie et Paul Savitch refont également ces mesures de Fermi, enlève la feuille d'aluminium, bien sûr, et comme ils étaient aussi un peu chimistes, surtout Savitch, ils analysent les éléments présents dans leur échantillon d'uranium, et ils concluent, ils se forment dans l'uranium irradié par les neutrons lents ou rapides, donc lents, c'est une fois que vous les avez absorbés, un radioélément de période 3,5 heures qui possède des propriétés chimiques semblable à celle du lanthane. Ils disent pas qu'ils ont trouvé du lanthane, qui est Z=57. Ils trouvent un élément qui a les mêmes propriétés. C'est-à-dire, ils savent à peu près où le placer, dans quelle colonne, sur le tableau périodique des éléments. Ce radioélément est produit en quantité comparable à celle des corps transuraniens déjà connus. C'est probablement aussi un corps transuranien. Alors, ce qu'a dit Ida Noddack, ils en ont rien à cirer. Ils oublient totalement. Et ils disent aussi, c'est probablement un transuranien. Donc, il se fourvoie totalement. Facile à dire quand on connaît la fin de l'histoire. Hein. Mais il rajoute quand même, en ce moment, ils sont incapables de dire quel numéro atomique attribuer à ces nouveaux éléments. Et la fin de l'histoire viendra d'Allemagne, de Berlin plus exactement, par deux, alors ils disent des radiochimistes. C'est Otto Hahn et Fritz Strassmann. En radiochimie, c'est des gens, c'est des vrais chimistes, donc qui regardent la nature des produits qui sont dans leur objet analysé, mais ils regardent aussi la radioactivité de ces éléments. Et eux, ils reprennent donc de façon vraiment méticuleuse les mesures, et c'est surtout l'analyse méticuleuse qu'ils en font qui est importante, et ils découvrent des éléments légers, tout à fait inattendu si, dans l'hypothèse de la formation du transuranien. Et entre autres, il trouve par exemple deux éléments, le barium qui a une masse 138 et le technetium qui a une masse 101, et ils font une addition. 138 plus 101 égale, la masse de l'uranium c'est 238, ils l'ont bombardé avec des neutrons, donc 238 plus 1, c'est 239, et ils disent, 239 a donné 138 plus 101. Et donc, ils émettent l'hypothèse d'une cassure sans la nommer. Alors, pour montrer à quel point les chimistes peuvent être modestes, prudents vis-à-vis des physiciens, je vous lis la conclusion. En tant que chimiste nucléaire, ayant une certaine affinité avec la physique, nous ne pouvons pas encore nous résoudre à faire ce saut qui va à l'encontre de toutes les expériences antérieures en physique nucléaire. Et en plus, il rajoute, c'est déjà l'heure.
J'interromps juste deux secondes. Si quelqu'un a une voiture immatriculée au Luxembourg, garée juste devant la grille de l'Institut, il faut se dépêcher parce que la fourrière va arriver. Voilà. Donc, personne immatriculée au Luxembourg. Ok, ça sera embêtant. Bon, je préférais vérifier quand même. Merci au monsieur qui est venu me le dire tout à l'heure. Voilà.
Ok, et il termine. Alors, prudence des prudences. Cependant, il est possible qu'une série d'étranges coïncidences ait pu simuler nos résultats. En d'autres, on s'est peut-être planté. C'est quand même une modestie extraordinaire. Néanmoins, ce papier signe la naissance de l'ère de la fission. Mais l'histoire continue avec Lise Meitner. Alors, Lise Meitner était, depuis qu'elle était étudiante, elle était à Berlin, elle a suivi les cours de Max Planck. Elle était une collègue de Otto Hahn, donc ils travaillaient ensemble. Jusqu'en 1934, vous connaissez les difficultés de l'Allemagne en 1934, Lise Meitner était juive, et donc elle a quitté l'Allemagne en 1934 et s'est réfugiée au Danemark. Ce qui ne l'a pas empêché de continuer à collaborer continuellement avec Otto Hahn et Fritz Strassmann. Donc ils faisaient du télétravail. Vous savez, le télétravail à l'époque, c'est vous prenez une feuille, vous écrivez, vous la pliez, vous la mettez dans un cachetier, une boîte aux lettres, et deux semaines après ou une semaine après, votre correspondant recevait le courrier. Il y avait même eu des réunions clandestines entre les trois. En tout cas, Lise Meitner est parfaitement tenue au courant des résultats de Hahn et Strassmann. Elle ne figure pas sur l'article pour des raisons de censure. Elle est quand même dans les références, donc c'est déjà ça. Et donc Lise Meitner, dès qu'elle prend connaissance du résultat, elle travaille avec son neveu, Otto Fritsch, et ils inventent la fission. Et je vais citer, donc il publie tout de suite un article dont je cite la conclusion. « Il semble ainsi possible que le noyau d'uranium ait une forme très instable et qu'après avoir été capturé, un neutron se divise en deux noyaux de taille à peu près identique. Ces deux noyaux vont se repousser mutuellement et acquérir une énergie cinétique totale, la totalité du processus de fission, elle invente le mot fission. Donc, la messe est dite quasiment, la fission a été découverte, et bien sûr, ça a créé beaucoup d'émoi dans la communauté scientifique. Alors, simplement pour vous montrer ce qu'est la fission telle qu'on la voit aujourd'hui, un neutron va bombarder de l'uranium. On sait aujourd'hui qu'il y a un seul isotope de l'uranium qui est fissible, qui est l'uranium-235. Vous allez le casser en deux, dans ce cas-là, d'un côté un krypton et un barium, et des neutrons. Si on veut mettre M égale E sur C2, avant, vous avez un neutron et de l'uranium. Après, vous avez un krypton et du barium et des neutrons et de l'énergie cinétique. Et cette énergie cinétique est le surplus de l'énergie de liaison qui est disponible quand vous passez d'un uranium-235 à des kryptons et des neutrons. Okay? Donc, de nouveau, le message ici, on peut le lire différemment. On dit quand un système émet de l'énergie, sa masse diminue. Et vous avez en haut le bilan des masses, et ce bilan donne 202 millions d'électronvolts, qui est une quantité qui n'est pas très grande quand vous la transformez en kilowattheure, mais quand vous multipliez par le nombre d'Avogadro, qui est 10 puissance 23, vous arrivez à des énergies très conséquentes. Alors bien sûr, j'ai dit, ça excite tout le monde, et bien sûr à Paris aussi. Joliot immédiatement fait sa manip, il utilise sa chambre à brouillard. Il met au milieu sa chambre à brouillard, donc le trait vertical que vous voyez, c'est sa cible d'uranium. Il bombarde ça avec des neutrons. Les neutrons, vous les voyez pas, c'est pas une particule chargée. Et vous voyez les deux traits plus épais qui sortent de chaque côté, c'est les deux produits de fission. Visualisation directe, évidence, sans discussion d'une réaction de fission. Bien. Alors, ah oui. Alors, j'ai dit ça met les personnes en émoi et à la fois des deux côtés de l'Atlantique. D'un côté de l'Atlantique, on retrouve Fermi et Bohr. Les deux ont déjà émigré aux États-Unis. Ils comprennent tout de suite l'intérêt de la chose. Et l'intérêt de la chose est qu'il y a une émission de neutrons. Vous commencez avec un neutron, vous terminez avec trois. Chacun des neutrons peut induire une nouvelle fission, blablabla. C'est la réaction en chaîne. Et donc, il suffit de faire des calculs très simples et vous voyez que l'énergie est considérable. Mais je crois que, on va quand même faire un petit cocorico, Joliot a été le plus malin et le plus rapide. Il a commencé par déposer trois brevets en 1939. La fission est découverte en 1939. Ces brevets couvrent la réalisation à la fois de l'utilisation civile et de l'utilisation militaire de cette énergie-là. Il en profite pour acheter tout le stock d'eau lourde, vous direz après à quoi ça peut servir, et tout le stock d'uranium. Donc la France a acquis la totalité du stock mondial d'eau lourde et d'uranium. C'est donc le premier pays au monde à s'assurer un approvisionnement et à comprendre l'importance de l'énergie nucléaire et civile et militaire. Cocorico, si on veut. Le 2 décembre 1942, venu de Chicago, pour les initiés, c'est top secret, The Italian Navigator has just landed in the New World. Italian Navigator, c'est Fermi. Le New World, c'est la première divergence d'une pile atomique réalisée à Chicago. Donc le 2 décembre 1942, la fission, découverte de la fission date de 1939. Et donc là, toute une autre histoire commence. Et si j'ai le temps, ouais. Si vous permettez, et quand même vous parler un peu de comment extraire l'énergie de la matière. Donc, on a tous les éléments, bon, on va essayer d'être un peu plus technique. Alors, l'idée, bien sûr, c'est pas de faire un cours complet sur la production d'énergie par des combustibles nucléaires. Ce que j'aimerais, c'est vous donner quelques éléments de langage. qui vont vous permettre de suivre les débats qui ne manqueront pas, ou qui ne manquent pas, qui ne manqueront pas dans les médias ou dans les bistrots. Débats qui sont souvent teintés d'une idéologie néfaste, où la véhémence des propos des idéologues est généralement proportionnelle à l'incompétence en physique. Alors, quelques éléments de langage. Comment produire de l'énergie? Alors ça, vous avez déjà vu au premier cours, c'est la machine à vapeur de Watt, par exemple. Il faut de la chaleur, du feu. Il faut transformer de l'eau en vapeur. La vapeur va actionner une turbine et vous avez de l'électricité. Alors, ce qui va bien sûr nous intéresser, c'est comment faire le feu. Et quand j'ai dit éléments de langage, si vous lisez dans la presse, le réacteur EPR est un REP de génération 3. Traduction, pas évident. Hein. Généralement, quand on parle EPR, on pense Flamanville, on pense budget dépassé, on pense retard. Ça, c'est un autre problème. EPR, c'est European European Pressure Water Reactor. En français, est un REP, un réacteur à eau pressurisée. Okay. On va un peu voir comment cette chose fonctionne, donc de façon très simple. Donc l'essentiel, c'est faire le feu. Le feu, ça s'appelle. On le fait dans un réacteur nucléaire. Vous avez ici une image très simplifiée du réacteur nucléaire où vous trouvez tous les éléments de la machine à vapeur. Vous avez à gauche, en rouge, le feu. La transformation de l'eau en vapeur, c'est la partie bleue. L'action, donc la réalisation du travail mécanique, c'est les turbines qui tournent. Et, comme je vous l'ai dit le premier cours, vous ne pouvez pas produire un travail mécanique si vous n'avez pas une source chaude et une source froide. La source froide, c'est le refroidissement et les fameuses tours de refroidissement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un réacteur nucléaire? Dans un réacteur nucléaire, on a d'abord un combustible. De combustible, en l'occurrence, c'est un matériau qui est fissile. Fissible ou fissile? Fissile. Fissile. Et ça, c'est des choses qu'on trouve généralement dans la nature. L'uranium, il y a eu un cours l'année dernière sur les réacteurs naturels, ça se trouve dans la nature. Ensuite, il faut un fluide qui soit à la fois caloporteur, c'est-à-dire un fluide qui prend la chaleur créée autour des matériaux fissiles, et il nous faut aussi un système modérateur, c'est-à-dire pour ralentir les neutrons. Donc, vous rappelez, Fermi avait découvert que la fission, ou cet élément qu'il pensait avoir découvert, était produit d'autant plus intensément que les neutrons étaient lents, donc ralentis. Donc, l'eau que vous avez en rouge ici, c'est de l'eau, en fait, qui va ralentir les neutrons pour augmenter la probabilité de fission. Puis il faut un système de contrôle, c'est les deux barres verticales que vous voyez, qui sont des éléments neutrophages, c'est-à-dire pour réguler la production de neutrons dans les fissions. Donc si vous en avez trop, vous baissez vos barres qui vont absorber les neutrons, et donc ça c'est l'élément régulateur. Donc ça c'est les trois éléments, ou les quatre éléments clés que vous allez trouver dans presque tous les réacteurs. Alors, une question posée, mais comment, avec des produits de fission, on peut chauffer de l'eau? Ça paraît pas évident, ça. Hein? Alors, rappelez-vous que produits de fission, c'est deux noyaux qui ont des énergies très élevées. Quand je dis énergie élevée, on va traduire ça en vitesse, c'est 10 000 km par seconde. Donc, ça va vite. Hein? Comme c'est des éléments assez lourds, dans l'eau, ils sont très vite ralentis en ionisant les molécules d'eau, c'est-à-dire ils arrachent, donc c'est un peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine, ils arrachent les électrons des atomes de l'eau, pour que vous avez d'un côté des électrons qui se baladent tout seuls, et des ions, puisque c'est un élément ionisé qui se balade tout seul. Très vite, cet ion va capturer un électron. Et donc, de nouveau, par le même principe E égale MC2, l'énergie de liaison de l'électron à l'atome, ça, il coûte moins cher à l'électron d'être dans l'atome que d'être tout seul. Donc, vous gagnez de nouveau de l'énergie. Et la même chose pour l'électron qui va être capturé par un autre ion. Et cette énergie va, en fait, se traduire par l'agitation des molécules d'eau. Agitation de molécules d'eau, ça veut dire chauffage. Et donc, vous avez gagné vos trucs. Alors, on parle souvent de filières, donc je vais aller très rapidement, mais ça sert souvent de savoir ce que c'est une filière. Donc, les filières se distinguent en fonction du combustible que vous utilisez et du milieu modérateur que vous utilisez. Donc, quand on parle eau et uranium enrichi, on dit on a de l'uranium enrichi comme combustible et de l'eau comme modérateur. Uranium enrichi, c'est pas de l'uranium naturel, c'est-à-dire vous rajoutez de l'uranium 235 qui est fissile, vous le rajoutez dans votre matériau pour avoir plus d'uranium 235, donc plus de fission. L'enrichissement, l'uranium 235, c'est de moins de 1%, c'est 0,7% dans l'état naturel, vous l'enrichissez à 5%. Ensuite, vous avez donc dans ce type de filière les réacteurs à eau pressurisée. Alors, comme je l'ai montré, je sais pas. Ah oui, vous avez en fait ici deux circuits d'eau, l'eau jaunâtre et l'eau bleue. Donc, l'eau jaunâtre est pressurisée, donc elle est pressurisée pour éviter qu'elle forme de la vapeur. Donc, on la porte à très haute température, comme la pression est élevée. Elle se transforme pas en vapeur. Et ensuite, avec un échangeur, vous chauffez le deuxième circuit d'eau qui lui, est à pression normale. Donc, vous voyez, là, c'est à deux circuits d'eau et c'est ce qu'on appelle donc la filière à réacteur à eau pressurisée. Vous avez aussi à eau bouillante. Bon, il y a qu'un seul circuit d'eau, mais ça, c'est peut-être des détails. Vous avez aussi l'eau lourde et l'uranium naturel. Donc, je vous ai dit que Joliot-Curie avait récupéré toute l'eau lourde produite en Norvège. D'ailleurs, si vous voulez connaître toute l'histoire, il y a un super film de Jean Dréville, La bataille de l'eau lourde, je crois. Oui, bataille de l'eau lourde. Donc, vous pouvez prendre de l'uranium naturel à condition de pas trop ralentir les neutrons. Et l'eau lourde ralentit moins les neutrons que l'eau. Et donc, disons, c'est une autre filière qui est un peu moins utilisée, simplement parce qu'il faut fabriquer l'eau lourde. Graphite gaz, donc là, vous prenez du graphite et du gaz, graphite comme caloporteur et le gaz pour le second élément. Ça, c'est les premiers réacteurs français étaient graphite gaz. Ensuite, il y a les neutrons rapides. Alors, neutrons rapides, ça va un peu contre ce que disait Fermi, c'est les neutrons lents qui sont les plus efficaces. Mais quand on regarde de près, que peut faire un neutron rapide? Un neutron rapide peut être capturé par l'uranium 238 avec une bonne efficacité parce que justement le neutron est rapide. Il forme de l'uranium 239 qui va se désintégrer par bêta- en neptunium 239, on apprend des mots, hein, qui lui se désintègre au bout d'un certain temps en plutonium 239. Plutonium 239, durée de vie 20 000 ans, un truc comme ça, il est fissile. Là, vous avez fabriqué un réacteur qui produit son propre combustible. Et donc ça, c'est une filière qui est extrêmement prometteuse, qui a été massacrée dans les derniers gouvernements. Je crois que c'est Hollande qui, sous la pression d'un, enfin sous certains groupes de pression dont la couleur favorite est le vert, et qui est nouveau remis à l'ordre du jour. Bon, c'est vrai que la technologie est un peu plus difficile que pour les réacteurs, je dirais, à neutrons lents ou normaux. Mais néanmoins, c'est non seulement ça produit son propre combustible, mais ça permet aussi d'incinérer tous les produits, ce qu'on appelle les déchets, qui sont produits par les centrales classiques. On appelle ça les actinides lourds, qui ont le désavantage d'être très radioactifs et des durées de vie très longues. Un tel réacteur peut les consommer et pour produire de l'énergie, bien sûr. Et un dernier chiffre dont je voudrais vous parler, si jamais il y a des questions sur la bombe atomique, ça peut nous être utile. Il y a ce facteur qui est la facteur clé dans toute industrie nucléaire, qui s'appelle le KEF, pour les initiés, qui est simplement le rapport du nombre de neutrons produits par fission, dans la fission on ne produisait pas de neutrons, et divisé par le nombre de neutrons perdus. Alors perdus, soit ils sont capturés pour faire de la fission, ou ils partent dans la nature, dans l'enceinte, en métal ou en béton. Et ce KF va déterminer quelle est la probabilité ou quelle est la chance de créer la réaction en chaîne. Si ce KF est plus grand que 1, c'est-à-dire si vous avez produisé plus de neutrons que vous en perdez, le cœur devient surcritique, c'est-à-dire que votre réaction s'emballe, et quand ça devient très surcritique, ça s'emballe méchamment. Les réacteurs civils, bien sûr, ont un KF très voisin de 1, tout légèrement inférieur à 1, et on dit que le cœur est sous-critique. Et c'est là où je vais terminer, une toute nouvelle technologie, enfin qui est toute nouvelle, les gens s'y intéressent beaucoup en ce moment, alors qu'elle date des années 80, c'est ce qu'on appelle un système piloté par accélérateur. Alors, quel est l'avantage de ce système? D'abord, le KF est inférieur à 1, c'est-à-dire le cœur est sous-critique. Le cœur ne s'emballe jamais. Donc, vous n'avez pas besoin de modérateur, vous n'avez pas besoin de système de contrôle, il y a un cœur. Si vous laissez, il se passe rien. D'où viennent les neutrons? On va produire des neutrons, non de l'intérieur, mais on va les produire de l'extérieur. Donc, pour produire des neutrons, il y a des techniques, c'est une technique brutale, vous accélérez des protons à des énergies assez importantes, vous tapez sur un matériau quelconque, les produits de réaction vont être des neutrons, ces neutrons vous les injectez, et dès que vous les injectez, la réaction en chaîne se met en place, votre réacteur fonctionne, et dès que vous coupez l'accélérateur, ce qui se fait en quelques millisecondes, la réaction en chaîne s'arrête. Donc c'est un système dont la sûreté est éprouvée, il y a même ça reste un dessin de CAO, mais ça existe. Et c'est sur ce dont je voulais terminer. Simplement, en conclusion, j'espère vous avoir convaincu qu'une équation de physique peut être très loquace, extrêmement loquace, surtout quand on prend le temps de l'écouter. Et qu'elle nous dit surtout des choses qui ne sont pas les choses auxquelles on pense a priori ou les choses qu'on nous raconte par-ci, par-là. Alors, ce matin, j'ai encore eu une discussion avec mon équation et elle m'a dit « Dis-leur bien, je ne dis pas comment produire de l'énergie, je ne dis pas comment transformer de la masse en énergie, je ne révèle aucun secret sur la physique nucléaire et je ne dis pas comment fabriquer une bombe. Je dis que la masse et l'énergie, c'est deux choses identiques, et c'est pour ça que l'équation s'appelle la relation d'équivalence masse-énergie. Merci.
Merci. Je m'inquiète quand même un petit peu si les équations te parlent, c'est quand même un peu... voilà.
J'avais prévu un morceau d'uranium pour les TP, mais...
Allez-y, oui. Je vais répéter la question après.
Non, il l'a planqué à Bordeaux. Et de Bordeaux, ça a été exporté en Angleterre. Pour voir le film. Pardon ?
Si est immatériel et donc résume à des interactions entre.
Oui, deux interactions.
Et comment se fait-il qu'on arrive à la peser ?
Ah.
Des interactions alors ?
Pardon ?
Quand on se pèse, on pèse des
interactions. Non, mais en fait, on a une inertie. Et ce qu'on mesure, c'est l'effet de notre inertie dans le champ gravitationnel. C'est ça qu'on appelle peser. Mais effectivement, c'est un peu exagéré de dire que la masse est immatérielle, parce que quand on remonte au début, on dit que les particules ont une masse nulle, mais elles acquièrent quand même de l'inertie par interaction. Donc, voilà.
Oui, allez-y.
On remplace un proton par du deutérium. C'est tout. Donc, c'est
facile.
C'est de nouveau, c'est de la chimie. Hein. Non. Non, il y avait, en 39, il y avait une seule usine au monde, c'était en Norvège. Qui a été bombardé d'ailleurs par les Alliés pour éviter que les Allemands ne puissent fabriquer de l'eau lourde.
D'autres questions ? Pas d'autres questions ? Rien sur le nucléaire, les bombes atomiques.
Je peux faire un peu de pub.
Mais
pour
si faire de la publicité.
Si vous avez des idées, des souhaits, des vœux pour
bien sûr.
Les prochaines conférences, n'hésitez pas.
Hein. Oui.
Si on est compétent, on fera un effort.
Vous pouvez nous envoyer des suggestions. Physique pour tous, c'est quoi l'adresse ?
@unistra.fr.
Voilà, tout simplement. Physique pour tous, @unistra.fr. Ou alors aller sur le site physiquepourtous.unistra.fr. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire marcher votre imagination. Oui, allez-y, une dernière question peut-être.
Oui. Einstein.
Qu'est-ce qu'a fait Einstein dans le domaine de l'expérimentation ?
Tout dans expérience de pensée. Non. Non, il était au courant de tous les travaux de Becquerel, d'Écurie. Donc on est en 1905, oui, ça va pas plus loin.
Induit, c'est-à-dire ?
Pardon, Sylla ? Mais les choses étaient publiées, disons, Einstein lisait les comptes rendus de l'Académie des sciences, donc il était parfaitement au courant de ce qui se passait dans le monde, et je pense les gens se parlaient, ils échangeaient. Hein. Bon, maintenant, il faut quand même dire qu'Einstein, en 1905, c'est un inconnu parfait, hein, donc, dans le monde académique, donc ce qu'il savait, il le savait par la lecture de ce qui était publié.
Oui, allez-y.
Non. Le film est très bien, oui. Oppenheimer d'abord était un physicien théoricien de haut vol et qui était le responsable scientifique du projet Manhattan entre 1939 et 1946, je ne sais plus. Mais bon, disons, ça devait être, pour un physicien, ça devait être le pied de faire partie du projet parce qu'il y avait du beau monde. Hein. Sauf Einstein. Einstein, on l'a pas autorisé à participer au projet juif, allemand et antimilitariste. Il les a cumulés. Ouais. Einstein pensait sincèrement que les Allemands, et il connaissait Heisenberg, hein, il savait que c'était pas un premier venu, avait au moins le potentiel intellectuel pour faire la chose. Einstein a été très influencé par Szilard. Il a fait que signer la lettre. C'est Szilard qui l'a rédigé. Et dans la tête d'Einstein, c'était plus « on fait la bombe pour leur faire peur ». et surtout pas pour l'utiliser. Il était traumatisé le jour où elle a explosé. Oppenheimer aussi, d'ailleurs.
Oui, allez-y.
Oui, les Allemands étaient, ils avaient créé, je ne sais plus comment il s'appelle, ce groupe qui était piloté justement par Werner Heisenberg. Ils avaient absolument, ils n'avaient même pas fait diverger de piles à l'époque. Donc, pardon? C'est pas, oui. Oui, mais il suffisait de la faire exploser dans le désert de l'Arizona plutôt que de la faire sur une ville japonaise. Hein, ça aurait suffi. Mais, non, mais je pense pas que... On était quand même en période de guerre. Les Allemands étaient excessivement prudents et les gens impliqués dans le projet étaient plutôt sympathisants. Ils étaient...
Je vous recommande une excellente bande dessinée qui s'appelle La Bombe, qui est une grosse bande dessinée
superbe, cette bande,
en noir et blanc et qui est très bien documentée sur toute l'histoire de la bombe.
Ah oui.
Est-ce qu'il y a beaucoup de physique? Il y en a un peu, mais en fait c'est surtout historique.
C'est plus
historique. Ouais, plus que physique.
Non, mais j'ai fait exprès un peu de dissocier les trois, mais quand on parle de la fission, les trois sont intimement liés dans tous les hommages qu'ils ont pu avoir. Donc.
Elle n'est pas citée dans
mais
le
film. Attendez, vous parlez de Meitner ou de Oda? Ah oui, non, mais elle, moi j'ai appris à la connaître en préparant le cours. Hein. Donc non,
le film ne la mentionne pas. Mais il mentionne pas plein d'autres choses.
Si c'est pas dans le film. oui. Non, elle a...
C'est quand même qu'un film américain.
Elle a anticipé, mais... Bien.
Bien, eh ben merci beaucoup. On se retrouve au mois de mai, donc dans un mois à peu près. Et merci encore. Bonne soirée.